Charles Aznavour, l'artiste international par excellence, Charles Aznavour le français, Charles Aznavour l'arménien, Charles Aznavour l'américain. Tout au long de sa carrière, le chanteur a traversé l'Atlantique pour devenir une star aux États-Unis. Bonsoir Thomas Nagaroff.
Bonsoir.
En août 2017, Charles Aznavour reçoit son étoile sur le mythique Walk of Fame à Hollywood, signe d'une reconnaissance américaine que peu de chanteurs français ont reçu. Mais pourtant, aux États-Unis comme en France, ça a été difficile au début.
Oui, ça commence tôt. En 1948, il a que 24 ans. Et avec son complice Pierre Roche, il s'envole pour les États-Unis pour y rejoindre Édith Piaf. Édith Piaf, elle les avait remarqués 2 ans plus tôt, en 46. En 48, elle triomphe outre-Atlantique. Elle leur dit « Mais venez avec moi, ça va marcher aussi aux États-Unis ». Tout se passe pas comme prévu. Bien des années plus tard, en 1980, Aznavour revient sur ses premiers pas un peu ratés aux États-Unis.
Le Café Society, c'était en 48, une aventure insensée parce qu'on savait pas un mot d'anglais, on n'avait pas l'argent, on n'avait pas de visa et on ne connaissait personne à New York sauf Piaf qui n'y était pas. On est rentré en prison, quoi. C'était le seul endroit où on pouvait être tranquille. Et bon, on les a mis en prison, puis on est sorti à un moment donné, puis on a fait les auditions. Et puis le Café Society, première audition qu'on a passée, c'était le Café Society, ils nous ont engagés. Parce qu'à l'époque, Dean Martin et Jerry Lewis, c'était un numéro qui marchait très très bien, et on a cru qu'on était les comiques. Non, on n'était pas les comiques, on chantait les chansons dramatiques. Ça s'est arrêté 5 semaines après, on n'a pas trouvé un autre contrat, et on est tombé sur le Canada où on est resté 40 semaines dans la même maison.
Donc ça commence en prison aux États-Unis et 1 an et demi au Canada. D'ailleurs, ça marche tellement bien au Canada, ou surtout tellement mieux qu'en France, qu'Aznavour décide de rester au Québec, ouais, et de s'installer à Montréal. Et c'est Édith Piaf qui dit « Non, t'as du talent, tu reviens en France ». Et c'est là, effectivement, en France, où il va commencer à prendre de l'ampleur, d'ailleurs plus comme auteur-compositeur que comme interprète. Mais il revient aux États-Unis tout de même, parce que quand il a une idée en tête, il l'a pas ailleurs, comme disait ma grand-mère. On est en 1963, il revient aux États-Unis, il chante au fameux Carnegie Hall à New York, plein à ras-bord. Alors effectivement, rempli surtout de Français, d'Arméniens, de cinéphiles qui l'ont adoré dans le film de François Truffaut. Et puis 4 ans plus tard, il fait un truc que personne n'avait fait avant lui. En 67, il revient, mais il fait une tournée aux États-Unis pas comme les autres. Il fait une tournée des campus américains. Il fait 14 universités à quasiment autant de jours. Des universités qui sont pleines à ras-bord. Bertrand Dickel nous racontait tout à l'heure. Il l'a fait parce qu'il s'est dit, ces gens-là, ces jeunes-là, bientôt diplômés, auront les moyens dans quelques années de payer des places dans les grandes salles où je me présenterai aux États-Unis. Vous voyez, déjà un peu la bosse du commerce. Et Little Charles commence à se faire vraiment une place aux États-Unis.
C'est ainsi que son succès se construit, hein, finalement, Thomas. Le triomphe, il est pour le début des années 80.
Oui, en 83, notamment plusieurs semaines à Broadway. Aznavour se présente avec humour, d'ailleurs, comme un produit français qui marche en Amérique. À une époque, c'est plutôt l'inverse, c'est l'américanisation culturelle. Lui, il est à Broadway pendant plusieurs jours et c'est un triomphe absolu. Mais il explique que c'est compliqué pour un Français là-bas.
C'est un grand, grand, grand pays. La découverte, c'est d'un produit étranger, finalement, et surtout d'une manière de chanter française, est toujours un coup de poing dans ce pays. Il a toujours été. Alors, où on plaît ou on plaît pas, mais c'est toujours un coup de poing. Le seul risque, c'est qu'on vienne pas en forme, avec un mauvais tour de chant, ou en chantant des chansons qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Alors ça, faut faire très attention. Ici, je suis considéré, et ça me fait toujours marrer, mais je suis considéré comme chanteur intellectuel.
Voilà, les États-Unis découvrent donc Aznavour.
Le succès est là, même si Aznavour est aux États-Unis plus reconnu finalement que connu à l'époque.
Oui, reconnu par ses pairs, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, avec qui il fera un duo en 93 dans les murs du mythique studio Capitol Records, ou encore Liza Minnelli, avec qui il chantera à Paris en 95 au Palais des Congrès. Liza Minnelli qui aura des mots très justes lors d'un nouveau triomphe du Grand Charles à Broadway en 1998.
Il est le plus extraordinaire poète, séducteur, chanteur. Il est la voix du peuple.
La voix du peuple, hein. C'est en octobre 98, 6 mois après la mort de Frank Sinatra, The Voice. Aznavour est alors qualifié de dernier chanteur après cette mort de Sinatra. Il le demeurera encore 2 décennies, lui, l'homme courageux.
Et pourquoi les autres chanteurs français, on les voit si peu ici ?
Pour avoir le courage de venir. C'est une question de courage, je crois. C'est tout d'un coup, il faut tout recommencer. Il faut épeler son nom dans les hôtels, dans les restaurants, au téléphone. Il faut redébuter, quoi. Et il faut avoir le courage de le faire, quoi.
Il faut redébuter. Merci, Thomas Nagaroff.